Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce que vous êtes choqué par la une de Paris Match et les photos d'Éric Zemmour en loue avec une jeune femme? Thierry est avec nous, bonjour.
Bonjour Pascal.
Choqué ou pas choqué?
Un petit trait d'humour, un anglicisme, A Star Is Born.
A Star Is Born, eh bien, on va en parler dans une seconde, après le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a eu le retour du train Cora et la SNCF va relancer les trains grandes lignes classiques à bas prix, hein, Paris-Lyon par exemple, entre 10 et 30 euros. Mais attention, hein, ce sera plus long, 5 heures contre 2 par exemple pour le TGV aujourd'hui. L'assurance maladie, elle annonce avoir identifié à ce jour 36 000 faux passes sanitaires présumés, 169 soignants fraudeurs présumés, eux aussi, hein, auraient délivré ces faux passes. La justice, dans la plupart des cas, est saisie. Et puis, toute dernière minute, l'Assemblée nationale qui adopte le projet de loi sur la responsabilité pénale. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy Broche. Et c'est encore une bien belle après-midi.
Exactement, Amandine, avec beaucoup de soleil, plein soleil quasiment partout. Il y a juste quelques nuages le long des côtes de la Manche, avec encore un peu de grisaille sur le nord Bretagne et Cotentin. Des nuages également, voire une petite averse possible sur le relief des Pyrénées. Sinon ailleurs, du grand beau et des températures qui remontent bien cet après-midi. 19 au Havre, 22 à Rennes, Nevers, 23 à Paris et Tarbes, 24 à Strasbourg, Lyon, La Rochelle, 26 degrés à Toulouse et Montpellier, 27 à Nîmes et jusqu'à 28 degrés à Ajaccio.
Et demain, Peggy, on en profite avant le retour des orages, ça ce sera pour samedi.
Exactement, ça reste demain une belle journée, une journée calme avec encore beaucoup de soleil, mais beaucoup plus de grisailles et de bandes brouillards le matin sur le nord-nord-ouest. Dans l'après-midi, tout ça va se dissiper, on va retrouver un ciel variable entre la Bretagne et la frontière belge. Et puis le ciel sera légèrement voilé dans le sud-ouest, mais l'impression restera belle, toujours un petit risque d'averse sur les Pyrénées, partout ailleurs encore du grand bleu, tout ça sous des températures minimales aussi qui vont remonter.
Ah, ça c'est pas mal.
4 degrés à Reims ce matin, ça ira mieux demain. Il en fera 8 cette année, 6, 9 au Mans, 12 à Paris comme à Bordeaux. Et les maximales, elles seront globalement stationnaires ou en légère hausse, notamment dans le sud-ouest. 19 à Cherbourg, 22 à Rouen, 23 à Paris, 24 à Strasbourg, 25 à Lyon, 27 à Auch, 28 à Bordeaux, Nîmes et Marseille.
Merci Peggy.
Merci Amandine et rendez-vous demain. Il est 13h03.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
En couverture de Paris Match qui paraît aujourd'hui, Éric Zemmour fait donc la une en compagnie d'une jeune femme. Cette photo dévoile une complicité, une intimité entre les deux personnes. Intimité qu'Éric Zemmour souhaitait conserver puisque celui qui n'est pas encore candidat à la présidence de la République avait refusé la présence des photographes de Paris Match. Il s'agit donc d'une photo diffusée sans l'autorisation d'Éric Zemmour qui a décidé de porter plainte. Nous sommes avec Thierry qui est donc en Charente et qui réagit sur ce sujet.
Alors, pour réagir, il faut quand même planter le décor. La photo, elle n'est pas prise dans une piscine privée d'un hôtel ou d'une résidence privée. Elle est prise à partir d'une page publique, une grande page publique, du côté de Toulon. Éric Zemmour, c'est lors de son déplacement, où il y a une horde de journalistes qui l'a suivi. Donc, quelque part, on peut se poser la question, qui porte plainte derrière, c'est normal. C'est une atteinte à la vie privée, ça c'est autre chose. Mais que la photo sorte sur dans les journaux, il n'y a rien de choquant et rien d'alarmiste et rien de surprenant. Vous-même, avec votre propre téléphone, vous auriez pu faire exactement la même photo.
Mais j'entends bien, mais quand je suis sur une plage l'été, j'ai pas forcément envie de me retrouver avec ma compagne à la une d'un journal.
On est bien d'accord, d'où son attaque sur la vie privée. Mais après, je me dis que finalement...
Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu dangereux ce que vous dites.
Non,
vous dites c'est de sa responsabilité parce qu'il va sur une plage publique.
Je n'ai pas dit que c'était de sa responsabilité. J'ai dit qu'il n'y avait rien de choquant.
Il sera condamné, photo, Paris Match sera condamné.
Bien sûr, ils seront condamnés. Au maximum, ils seront condamnés à 5 000 euros. En France, c'est ça, on n'est pas en Angleterre.
Ça peut être plus. Hein.
Mais bon, mais après, je me dis, ça reste mon avis et je ne tire pas des plans sur la comète. Je me dis, finalement, Zemmour, il est quand même malin. Il est quand même malin, parce qu'on lui a coupé la parole. Officiellement, on lui a coupé la parole par le CSA. C'est l'un, il y a plus de 30 candidats à la présidentielle, lui il n'est même pas candidat, c'est sûrement celui dont on parle le plus.
Je vous confirme.
Et celui qui apparaît le plus dans les médias. Ce soir, il va être confronté à Mélenchon, donc autant vous dire, demain, on va reparler de Zemmour.
Je vous confirme encore.
Donc, Zemmour, il dit, puisque je ne peux plus parler, eh ben, je vais me servir des médias et je vais me mettre en avant.
Ah oui, mais là, c'est pas et lui. Je suis pas sûr qu'il est, qu'il soit content de la photo de Paris
vous
Match.
Vous connaissez.
Quoi, d'ailleurs, je suis sûr du contraire puisque je l'ai eu au téléphone.
Il va pas dire. Mais Zemmour, il va pas dire. Mais bien sûr, j'étais consentant. Mais bien sûr qu'il va pas dire ça.
Bah, il aurait pu. Pourquoi il aurait pu Vous savez, les journalistes de Paris Match lui ont demandé de le suivre.
Pascal, vous allez me confirmer que c'est quelqu'un d'intelligent, Éric Zemmour.
Il pouvait donner son accord.
Mais non. Et pourquoi intelligent. Parce qu'il a refusé d'avoir une interview à Paris Match, à la base.
Pardonnez-moi. Xavier Bertrand, par exemple, a fait l'autre jour une séquence avec Paris Match où il s'est mis en scène avec sa compagne. Bon.
Oui, mais pas avec sa maîtresse.
Mais vous dites maîtresse.
Excusez-moi, je retire. En compagnie d'une personne qui n'est pas sa femme.
Oui, voilà. Mais. Vous connaissez pas la vie privée précisément de Éric Zemmour. Il y a parfois, comment dire, il y a des situations qui sont, comment dire cela, d'une manière délicate. Parfois, lorsque vous quittez votre épouse, vous êtes toujours marié avec elle, mais vous ne vivez plus avec elle parce que vous êtes dans une période de transition. Ça peut aussi arriver. Je ne dis pas que c'est le cas d'Éric Zemmour, mais ça, convenez que ça peut arriver.
Ça peut arriver. Mais Pascal, pour en revenir au point géographique, il ne souhaitait pas les journalistes. Il ne souhaitait pas être pris en photo. Dans ce cas-là, sérieusement, Pascal, Éric Zemmour, il ne va pas sur l'une des plus grandes plages publiques au bord de Toulon.
Donc vous pensez quoi, au fond? Vous pensez qu'il a incité, il l'a initié?
Non, il ne s'est pas caché.
Mais il ne se cache pas, Zemmour. C'est pas son genre, en plus, de se cacher.
Donc voilà, maintenant, il porte plainte. Mais bien sûr qu'il porte plainte. Vous rendez compte, si en plus il ne portait pas plainte, on dirait, là, faut carrément, il cautionne.
Donc il porte plainte. En tout cas, je l'ai eu, moi, hier au téléphone. Il disait deux choses. D'abord, il était très mécontent d'imaginer qu'une rumeur puisse penser que c'était lui qui l'avait initié. Ça, vraiment, il le démentait. La deuxième chose, c'est qu'il allait porter plainte. La troisième chose, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans son tweet. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je dois vraiment beaucoup inquiéter les uns et les autres pour que Paris Match soit rendu à faire ça. Et c'est vrai que c'est pas non plus, convenez-en, les habitudes de Paris Match. Paris Match, c'est pas Closer ou Voici. Ouais. Paris Match, c'est très rare que Paris Match publie ce type de photos dites volées.
Pascal, rapidement, dernière chose, juste quand même très bizarre. Une élection arrive en 2022, il y a quelques années en arrière, DSK, Fillon, il y a toujours un truc spécial qui arrive.
Voilà, c'est pas comparable.
C'est pas comparable, mais.
DSK, c'est pas comparable. DSK avait violé.
En tout cas, il était
soupçonné d'avoir violé une jeune femme.
Il y a des histoires qui apparaissent tout le temps pour les gens qui dérangent peu de temps avant les grandes élections. C'est tout ce que je dis. Après, chacun en conclura ce qu'il veut.
Bon, merci Thierry. C'était un plaisir. Thierry, vous allez sur les plages ce week-end?
Non, j'y étais le week-end dernier, il pleuvait bien.
Ah, vous allez sur les plages quand il pleut?
En moto en plus. Mais c'était
en moto,
très
vous
bien
allez
quand même.
Sur les plages en moto quand il pleut?
Mais c'était très bien.
Non, j'aimerais pas être votre voisin de serviette parce que ça peut être. Bon, vous n'êtes pas fait prendre en photo?
Non, puis moi, vous savez, je ne sais même pas si j'apparaîtrais derrière la revue municipale.
13h09, je salue Damien Béchiot. On
Bonjour
a plein de
Pascal.
Sujets. Bonjour Damien. Aujourd'hui, le foot, ça va être formidable parce que vers 13h30, 13h35, on va revenir sur les supporters. On sera avec Philippe Sanfourche, peut-être avec Cyprien Sini, qui est un supporter qui a grandi dans les travées du Stade Olympique de Marseille, donc il pourra nous parler du supporteriat. Et puis, j'adorerais que Christian Olivier revienne aussi.
Et puis on pourra peut-être ressortir un habillage, Pascal.
Ça serait
RTL.
Avec Pascal Pro,
on refait le match.
On refait le match.
À la bonne époque.
Ah, écoutez, la bonne époque,
la
c'est
nostalgie,
maintenant.
Pascal.
Non, faut pas être nostalgique. Il est 13h09, on marque une pause. Et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question la plus commentée sur nos réseaux sociaux. Êtes-vous choqué par les photos d'Éric Zemmour dans Paris Match? La couverture montre le polybiste en maillot de bain avec sa conseillère sur une plage dans le Var. Thierry a été le premier à réagir.
Que la photo sorte sur dans les journaux, il n'y a rien de choquant et rien d'alarmiste et rien de surprenant. Vous-même, avec votre propre téléphone, vous auriez pu faire exactement la même photo.
Éric Zemmour a décidé de saisir la justice après la une de Paris Match, un cliché qui fait du bruit et pour cause.
Paris Match n'a jamais fait sa une avec Jean-Marie Le Pen ou avec Marine Le Pen, jamais. C'est la première fois qu'un homme politique français situé à l'extrême droite sur l'échiquier fait la couverture de cet hebdomadaire. Les lignes éditoriales aussi bougent.
Ces photos vous dérangent-elles? 3210, 3210. Je marche seul dans les...
Merci Laurent. Alors, ce jeudi sort en librairie le livre d'Éric Jean-Jean, Goldman, une vie en chanson. Et tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne ce jour recevront un ouvrage, que ce soit depuis ce matin dans RTL Matin, mais les grosses têtes tout à l'heure, parlons-nous ce soir, et donc les auditeurs ont la parole. Thierry, par exemple, qui habitait de la Charente, a déjà ce livre d'Éric Jean-Jean, il peut compter dessus. Sur sa table de nuit. C'est un livre formidable d'ailleurs, parce qu'on a envie de savoir plein de choses sur Jean-Jacques Goldman. Alors, nous continuons avec l'affaire de Paris Match et nous sommes avec Thierry, un autre Thierry. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes dans la magistrature ?
Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, vous, tout à fait.
Vous, quelle fonction vous avez ?
Est-ce que vous savez ce que c'est un DPR ?
Un DPR ?
Délégué du procureur de la République.
Délégué du procureur de la République. Et ça consiste en quoi ?
Eh bien, ça consiste à appliquer, à mettre en œuvre, à la demande du contrôle du parquet, les mesures alternatives aux poursuites qui sont décidées par le parquet pour les infractions de faible gravité, par exemple.
Donc vous avez fait l'école de la magistrature à Bordeaux ?
Et non.
Ah non, d'accord.
On est nommé par le parquet et puis on est collaborateur du service public.
D'accord.
Donc voilà, nous sommes nommés.
Mais vous êtes magistrat ?
Non, nous ne sommes pas magistrats.
Vous n'êtes pas magistrat.
Non. En général, ce sont les personnes qui sont à la retraite, sauf que moi, je ne le suis pas. C'est un temps partiel que l'on a. C'est un métier extraordinaire que
je ne connaissais pas.
Sur le tas. Bah, écoutez, si jamais vous m'invitez sur votre plateau, je viendrai vous en parler avec un énorme plaisir.
Alors, que pensez-vous de la une de Paris Match ?
Eh bien, moi, je dis qu'effectivement, rien de neuf sous le soleil. Ça arrive souvent que les personnes publiques se font se font photographier sur une plage ou ailleurs, d'ailleurs. Rien de problématique, sauf qu'effectivement, c'est une photo volée. Et que cette photo volée, il est tout à fait normal, à mon sens, qu'effectivement, avec Zemmour, puisse déposer plainte. Voilà.
M'intéresse, c'est pas tant que ce soit une photo volée. Si c'était voici Closer, ça peut arriver. Le président de la République, François Hollande, s'était fait pincer, si j'ose dire, je crois, par Closer. Là, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, Paris Match propose, sinon des publics reportages sur les candidats à l'élection présidentielle, au moins des articles amicaux, comme ce fut le cas il y a quelques semaines avec Xavier Bertrand, qui posait avec le photographe, avec sa compagne, d'image du présidentiable bien sous tout rapport.
Moi, je pense que de plus en plus, bien entendu, il se fait des ennemis, forcément, parce qu'il est, dangereux pour certaines personnes, parce qu'il a fait 11%, on pense qu'il fait 11% actuellement, donc c'est juste énorme. Moi, qui suis un militant de base, pour l'instant, d'Éric Zemmour, parce que je souhaite de tout cœur qu'il devienne notre futur président de la République, personnellement, et je fais tout ce que je peux, bien entendu, pour que ça puisse arriver. Donc les choses sont dites. Moi, j'estime que les personnes qui ont fait cette photo ou qui ont commandité cette photo, ce sont des adversaires d'Éric Zemmour. Et cette petite musique que l'on entend là maintenant, là, il y a l'adultère. Alors ça nous fait perdre effectivement des voix. Ça m'ennuie un peu puisque les puristes, on les aura peut-être pas pour Éric Zemmour. Et ça c'est vraiment dommageable. Mais voilà, c'est quelqu'un de vrai, Éric Zemmour.
Vous êtes un fan d'Éric Zemmour, donc si vous me permettez, que je trouve intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est toujours la même chose. C'est qu'Éric Zemmour n'est pas traité comme les autres, comme Jean-Marie Le Pen avant n'était pas traité comme les autres, peut-être à juste titre d'ailleurs, et comme Marine Le Pen n'est pas traitée parfois comme les autres candidats.
Oui.
C'est-à-dire que Paris Match a fait avec Zemmour ce qu'il n'a jamais fait avec un autre candidat.
C'est ça qui
m'intéresse. Le reste, c'est de la littérature.
Il faut se poser la question. Pourquoi ? Parce que certains disent oui, il a fait exprès ou c'était commandité par lui-même. Non, c'est faux. C'est mal connaître Éric Zemmour et je pense que vous le connaissez bien mieux que moi. Et d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises sur vos plateaux. C'est faux. C'est pas lui qui l'a organisé, etc. Mais bon, il est tellement dans le vrai que pourquoi il se cacherait ? Pourquoi il se cacherait ? Donc
merci Thierry.
Comme ça.
Merci. Vous aimez Jean-Jacques Goldman ?
Oui, non seulement j'aime Jean-Jacques Goldman, mais Éric Jean-Jean était un ami que j'ai malheureusement perdu le contact. Oui, tout à fait. Je connais très bien Éric Jean-Jean.
C'est pas vrai.
Je l'embrasse de tout cœur.
Ah bah écoutez, on va lui faire passer le message. Il va vous faire petite dédicace. Quelle est la chanson de Goldman que vous préférez?
Oh, oula, Vol.
Vol. Peut-être. Vol.
Ouais.
Vol.
Oui, enfin, c'est lui qui l'a écrite.
Envole-moi ou c'est vol?
Envole-moi, oui, mais vol, je crois, c'est comment elle s'appelle? Il a écrite pour mince, son nom m'échappe. Grande chanteuse, énorme, monumentale.
Céline Dion.
Céline Dion.
Vol.
Oui.
Écoutez,
oui,
Damien, vous connaissez cette chanson, Vol?
Pas du tout, Pascal. Bah,
moi non plus, mais Vol, bon, en tout cas.
Alors non, elle porte peut-être le nom, un autre, le d'autres titres, mais dans cette chanson, c'était.
Écoutez, on va l'écouter en tout cas.
Qui partait sur un autre monde. Donc,
un autre monde.
Effectivement, voilà.
Bah, merci.
En tout cas, je suis à votre disposition.
Si vous
souhaitez en savoir plus sur les DPR, mais écoutez, vous avez mon contact.
Je n'y manquerai pas. Merci. À tout de suite.
Merci, Pascal Praud. Merci beaucoup. Au revoir.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
C'est l'une des questions du jour. Croyez-vous en Dieu ? 51% des Français n'y croient pas, selon un sondage IFOP. Hein, la majorité, c'est une première, un chiffre en augmentation par rapport à il y a 10 ans. Les plus croyants sont les 65 ans et plus, et les 18-34 ans. Comment en est-on arrivé là? Comment expliquer cette crise de foi? La réaction du père Pierre Amar, prêtre au diocèse de Versailles. Il était l'invité de RTL Midi.
Je suis à la fois triste et pas très surpris. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je suis prêtre, et ça fait 20 ans qu'on me prend pour un martien, donc je suis pas complètement surpris. En fait, on est passé de, vous savez, de cette expression « je suis croyant, non pratiquant », tout simplement, je suis non-croyant. Donc il y a un processus qui s'accélère.
Et les Français parlent également de moins en moins de religion en famille. Venez témoigner, venez réagir dans l'émission 3210.
Si Thierry est encore là, je crois que nous avons trouvé la chanson Vol. Écoutons-la.
Ah, bah oui. Mon amour, voilà. Oui, je suis encore là.
Mais oui, non, mais je connaissais pas cette chanson, pour tout vous dire.
Oui,
mais,
ouais.
On va l'écouter attentivement. Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Toujours sur la couverture de Paris Match avec Éric Zemmour.
Pardon.
Et donc une jeune femme. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous
bonjour,
habitez Dijon.
Bonjour à l'auditeur. Bonjour à Thierry. Oui, j'habite Dijon, effectivement. Écoutez, le premier Thierry avait déjà plutôt bien résumé le contenu de cette pseudo-affaire. Et puis je me rappelle de Balzac aussi qui disait que la presse était le quatrième pourboire, je crois que c'était en 1800, enfin non, avant qu'on arrive au 19e, au 20e, pardon. Tout le monde l'attaque, enfin elle attaque tout le monde, mais personne ne l'attaque. Donc là, pour le coup, si j'ai bien compris, Monsieur Zemmour va pouvoir vérifier ses dires. Mais sur le fond, Pascal, on s'en fiche, ça ne nous regarde pas, c'est pas du tout, c'est du voyeurisme, c'est pas autre chose.
Mais le voyeurisme, il est au fond de chacun de nous. On le sait bien, si on se dit les choses, on aime bien savoir les potins, les coulisses.
Oui.
On a envie de savoir la vie privée des stars parfois, des hommes politiques. C'est comme ça. Personne, me semble-t-il, n'échappe à ça.
Alors ça, je peux le comprendre, effectivement, il y a un public pour ça, mais il y a également des médias pour ça. Or, comme l'a dit un de vos collaborateurs précédemment à l'antenne, c'est la première fois que Paris Match s'en prend un personnage, un individu de droite, d'extrême droite, peu importe. Il n'avait jamais fait avant avec la famille Le Pen, par exemple. Moi, je pose la question à savoir pourquoi. Pourquoi ? Parce que M. Zemmour, pour le moment, ne s'est pas encore positionné par rapport au présidentiel à venir, première chose. Deuxième chose, M. Zemmour est évincé progressivement de tous les médias télévisuel et autres.
Ah non, ne dites pas ça, on ne l'a jamais autant vu. Frédéric,
alors,
ne dites pas ça. Depuis que le CSA l'a sorti de ses news, il est partout. Donc ça, on ne peut pas dire ça.
Effectivement, donc là, il y a un effet de rebond. Mais aujourd'hui, il n'a plus. On essaie de lui enlever un petit peu la légitimité qu'il pouvait avoir jusqu'ici. Peu importe les bords de M. Zemmour, peu importe ses pensées politiques, c'est pas le débat. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fait ça aujourd'hui avec un possible candidat au présidentiel et que
Ça a l'air de choquer beaucoup de gens. De l'autre côté, quand on s'est, entre guillemets, amusé ça avec M. Hollande, avec les allées et venues en scooter, avec son casque sur la tête, ça a fait sourire tout le monde. Quand M. Sarkozy s'est séparé de son épouse de l'époque, Cécilia Sarkozy, c'est passé, je ne vais pas dire comme une lettre à la poste, mais c'était normal, on a suivi ça un petit peu comme les feux de l'amour. Mais là, on a l'impression qu'on crie au scandale, que c'est honteux.
Non, on ne crie pas au scandale, on essaye de décrypter et de décoder.
Alors, si on
et
doit
puis
décoder,
on essaye que... également de voir les conséquences pour lui, en l'occurrence, s'il se présente ou pas. Je le répète à chaque fois, je ne suis pas sûr qu'il se présente à la candidature. Hein. Vraiment, je n'en suis pas sûr. Loin de là, pour tout dire. J'ai aucune info, mais je ne suis pas sûr qu'il aille jusqu'à se présenter.
Alors, c'est pour ça que tout ceci m'interroge également, parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette espèce de cabale ou de chasse aux sorcières indirectement on veut l'évincer tout de suite pour finalement... manipuler un petit peu la pensée universelle en France et dire non, surtout oubliez-le celui-ci et puis ne vous concentrez que sur les partis politiques historiques, ou bien c'est vraiment pour le plaisir de shooter et puis dire bah voilà, Monsieur Zemmour est comme tout le
ça
monde.
Ça fait vendre, n'oubliez jamais cet argument qui existe dans la presse et parfois même à la radio et à la télévision, disons-le, nous c'est l'audience, Paris Match c'est vendre des exemplaires, ça fait vendre, faut jamais oublier ça.
D'accord.
Il est 27, figurez-vous, et qu'on va échanger quelques secondes avec Olivier de Facebook. Peut-être qu'un jour, Olivier, vous serez pris en photo dans quelques années avec une compagne.
Avec une compagne, pour l'instant, ça risque pas.
Sais, c'est pour ça que je vous parle de ça, la difficulté que vous avez à rencontrer quelqu'un. Mais on ne sait jamais, la vie réserve parfois des bonnes surprises. Et peut-être qu'avec obstination, avec chance également, vous aurez un jour peut-être l'occasion vous-même
peut-être,
de vivre le grand amour.
Avec de la maturité, des cheveux blancs, peut-être que ça viendra, Pascal.
Je vous en prie, je vous ai parlé gentiment ce début d'après-midi.
Donc sur nos réseaux sociaux, Pascal Antoine nous dit « La vie privée de Éric Zemmour ne regarde pas le débat démocratique, on confond tout. Pour Michel, après cette une de Paris Match, Éric Zemmour n'est plus crédible. Selon Jean-Paul, il fallait s'en douter maintenant qu'il est quasi candidat, ils veulent tous le faire tomber. » Et on termine avec Mummy qui nous écrit...
Mummy ?
Oui, c'est Mummy qui nous écrit sur la page Facebook.
C'est Mummy Blue.
Alors, peut-être, parce qu'en attendant, je vais essayer de lire le commentaire. Et voilà une tribune supplémentaire offerte à Éric Zemmour, nous dit-elle.
Mais Mummy. Il est très possible, vous savez, on ne sait jamais les effets, qu'il y ait une forme de... ça le sex-appelise, si j'ose dire, oui. De sex-appile. Il est possible que lui-même, qui avait une image différente, tiens, on se dit, tiens, voilà un garçon qui est capable de séduire une jeune femme. Peut-être, je n'en sais rien.
Bah, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien, Pascal. Voilà, ça, c'est un fait. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de séduction, pas de sex appeal, c'est ça.
Mais de qui parlez-vous ?
Bah, je parle de moi, Pascal.
Vous ne parliez pas à moi. Non, je parlais d'Éric Zemmour.
Pardon,
il est possible que ça sex appealise, même si le mot n'existe pas, la personnalité d'Éric Zemmour. Je parlais d'Éric. Parfois, il m'arrive de ne pas parler de vous.
Non, mais heureusement, bien heureusement.
La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Je rappelle qu'aujourd'hui sort en librairie le livre d'Éric Jean-Jean, Goldman, une vie en chanson. Tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne ce jour recevront son ouvrage. Encore un matin où Éric Zemmour s'est fait photographier sur une plage ce week-end. Nous sommes avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Que pensez-vous de ce débat et de cette photo ? Vous avez acheté d'ailleurs Paris Match aujourd'hui ?
Non, je n'achète aucun quotidien de ce type. Mmh. Moi, ce que j'en pense, c'est que je suis soutien d'Éric Zemmour. Et en fait, dans cette affaire, il m'a déçu. Il m'a déçu puisque il porte un message qui est fort, au contraire de beaucoup de candidats qui vont se battre pour une revalorisation des pouvoirs d'achat de 0,02 points ou pour gagner un trimestre de retraite. Lui, il se bat pour ce qu'il porte, c'est-à-dire, et ce qu'il essaye d'amener aujourd'hui sur le débat public, le choc des civilisations. Et aussi pour que la France reste la France et qu'elle ne meure pas. Donc ça lui impose, à mon sens, une gravité. C'est les les thèmes qu'il porte lui imposent de à la fois cette gravité et aussi une rigueur dans la gestion de sa vie privée, parce qu'il ne peut pas donner le flanc à la critique et surtout à la diversion. J'entends par là comme diversion, ses détracteurs qui ne vont pas manquer de lui rappeler toutes ses condamnations, qui ne vont pas manquer également de rappeler certaines petites phrases qu'il a sorties. Et j'estime que il valait mieux se prémunir. Et quand il sait qu'il va faire des signatures à Toulon, donc que c'est un déplacement public, lorsqu'il sait aussi qu'il y a Paris Match, lorsqu'il sait que c'est une plage publique, je pense qu'il aurait dû savoir. Il sait très bien ce qui s'est passé il y a quelques années pour Laurent. Son nom m'échappe, Laurent Wauquiez, qui avait été enregistré à son insu au cours d'un de ses cours.
C'est différent,
mais en tout cas...
Différent. Ce que vous dites finalement, c'est que lorsqu'on est un homme public et qu'on vise la magistrature suprême, ce qui est possible ou pas, on ne le sait pas pour Éric Zemmour, il y a une forme d'ascèse qu'il faut avoir, de rigueur, qui interdit toute notion de plaisir en public.
Non, pas pour tout le monde, pas pour des personnes comme Anne Hidalgo ou comme Sandrine Rousseau lorsqu'elles viennent parler des panneaux de limitation de vitesse ou des sorcières. Elles peuvent se mettre un entonnoir sur la tête dans le débat public, ça ne changera strictement rien. Lui, en revanche,
parce qu'il parle de choc de civilisation, il doit pas être avec une femme sur la plage.
Non, simplement, il doit se prémunir, il doit éviter de justement.
Oui, mais c'est quoi le raisonnement ? C'est parce que vous considérez qu'il faut une sorte d'ascèse ?
Je considère, oui, c'est ça. Je considère en fait que le thème qu'il porte est plus grand que lui. Je considère que le message qu'il porte, lui, il n'est jamais qu'un médium.
Donc il y a quelque chose
le message,
de...
Et le message qu'il porte est plus grand que lui.
Il ne faut pas contaminer.
Il ne sera pas élu.
Non mais ça, il a peu de chances de l'être. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre raisonnement. De bien comprendre. C'est-à-dire que t'es en politique, t'es un moine. En fait, t'es un moine soldat au service de la cause.
Non, comme d'habitude, Pascal Praud, je vous connais bien. Vous amusez souvent à titiller vos interlocuteurs et à déformer leurs propos. En ce qui me concerne, je trouve que son message est grave, vous voyez.
Mais j'entends ce que vous dites. Mais je trouve que ça se tient en plus.
Moi, je me ressens comme étant une personne de cette population qui ne veut pas mourir. Vous comprenez ?
Vous n'allez pas au bout. C'est pour ça que je m'étonne. Je comprends ce que vous dites. Mais dites.
Mais je sais qu'il n'est pas la bonne personne pour ça. Il n'y a pas d'homme providentiel, vous savez. Et comme vous, c'est un épicurien, Éric Zemmour.
Si je suis un épicurien ou pas, je suis un ascète. Je suis un ascète.
J'ai des doutes là-dessus.
Vous avez tort. Je suis un ascète. Je rentre le soir à 23h, je me couche jusqu'au lendemain matin et je ne fais que travailler et penser.
Mais en tout cas, oui, je considère qu'il devrait. La gravité, il devrait avoir une gravité. Et simplement se prémunir. Voilà. Non. Donc, on verra, vous savez, le défilé des stars à partir de la rentrée, même du début d'année prochaine s'il est candidat, le défilé des stars du showbiz qui vont être amenés à parler de lui, ça ne va pas arrêter. On sait ce qu'a été la campagne de Jean-Marie Le Pen dans l'entre-deux-tours de 2002, enfin la campagne médiatique, et on sait que France Télévisions et Radio France vont je leur fais confiance.
Oui, mais c'est contre-productif, je veux dire, peuvent taper. Moi, si j'étais Zemmour, j'espérais... Je vous assure, pas sûr, parce que ça peut agacer les gens. Je vous assure, pas sûr. Et si j'étais Zemmour, je serais très content qu'il me tape dessus, parce qu'en fait, c'est contre-productif, ça agace bien souvent le public. Bon, l'ascèse, c'est du lundi au jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a le droit de ne pas être forcément un ascète, bien évidemment, Christophe. Mais c'était sympa de discuter avec vous, parce qu'effectivement, vous décodez un peu l'animateur que je suis parfois. Il faut bien titiller l'auditeur pour qu'il puisse passer de temps en temps, aller jusqu'au bout, en tout cas, d'une idée. Christophe, il est toujours là ? Il est parti, Christophe.
Non, je vous écoute.
Bon, écoutez, vous habitez où, Christian ? Christophe ?
J'habite à côté de Colmar.
Eh bien, écoutez, bonne journée du côté de Colmar. Olivier, tout va bien ? Olivier, vous êtes intervenu il y a quelques secondes.
Mais bien sûr, tout va bien, Pascal.
Vous n'hésitez pas, hein, vous devenez un personnage récurrent de cette session.
Ah d'accord, d'accord, bah, pas de souci.
Je sais qu'on m'interroge beaucoup dans la rue sur votre présence à l'antenne.
13h37. Surtout sur le métier que j'exerce aussi, peut-être.
Hein. Bien sûr.
Lance, on a encore des doutes, Olivier.
À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Faut-il interdire les supporters de voyager ? Je dis les supporters, je devrais dire les ultras, puisque les incidents se multiplient de match en match, de journée en journée. Et ça me fait très plaisir de retrouver mes vieux amis, Christian Olivier et l'ami Philippe Sansfourche. Oh, on fait le match ! J'ai l'impression d'être avec vous, ça va ?
Et ça va parfaitement bien, on fait le match chaque samedi soir, 18h30 à 20h.
Moi, ce que je vous propose, c'est de dialoguer avec les auditeurs. Les auditeurs, ils vont vous poser des questions. Et on va être avec Cédric. Cédric, bonjour.
Bonjour Pascal.
Je vais essayer de ne pas intervenir. Il y a Christian Olivier, il y a Philippe Sansfourche. Vous leur posez des questions, vous leur dites votre sentiment et eux-mêmes pourront dialoguer avec vous.
Donc, bonjour Christian et bonjour Philippe.
Bonjour Cédric.
Bonjour Cédric.
Alors, dans un premier temps, je voudrais quand même réagir à ce qui s'est passé hier concernant le match Angers-Marseille, puisque de toute façon, j'étais devant la télé, j'ai vu le match. Si vous voulez, ce qui s'est passé exactement, c'est que donc tout ça s'est bien dans le match, puisque les commentateurs ont eux-mêmes fait remarquer que dans les tribunes, il y avait des supporters angevins et marseillais côte à côte et que ça se passait très bien. Et en fin de match, des supporters angevins ont jeté une bombe agricole dans le parquage marseillais. Donc déjà, ça part de là. Ça excuse pas le fait qu'après les Marseillais soient rentrés sur le terrain, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Des deux côtés, il fallait pas le faire. Mais il y a quand même une provocation des supporters en chemin. Alors, moi, de là, interdire les déplacements des supporters, c'est pas la solution. Moi, la solution, c'est que je me dis, pourquoi il n'y a pas plus de sécurité dans un stade? Pourquoi on ne fait pas des vrais filets, des choses pour que les supporters ne rentrent pas sur le terrain, etc. Pourquoi on ne fait pas ça? Ça calmerait déjà beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'à mon sens, et ça, c'est un avis personnel, je pense que la LFP est responsable, en tout cas, sur les précédents qui se sont passés avec Nice-Marseille, où je pense qu'elle aurait dû être plus sévère dans les décisions qu'elle a prises pour éviter ce genre de débordement à l'avenir. Parce que finalement, les sanctions, elles ont été trop minimes pour moi.
Et bonne remarque. Christian vous répond.
Eh bien, en trois remarques, Cédric, de mon point de vue, a quasiment presque tout dit. Effectivement, les supporters, au départ, une bonne ambiance, troupe côte à côte, c'est un problème d'organisation et de gestion du match. Et là, le club local, en l'occurrence le SCO d'Angers, porte une responsabilité de mettre à proximité supporters angevins et supporters marseillais, premier point. Deuxième point, les équipements des stades, effectivement. Et ça ne concerne pas uniquement Angers, mais si on fait référence aux incidents de Nice, Marseille ou d'autres encore, il n'est pas normal que toujours ces supporters soient mis côte à côte ou en tout cas ne soient pas séparés par des filets au moins à minima de protection, les équipements des stades. Il faut revoir tout cela, effectivement, dans le football français. Et les sanctions de la part de la Ligue du football professionnel, trop nuancées, c'est trop molle et qui ne font absolument pas peur, effectivement, à ses supporters hooligans.
Oui, alors partiellement d'accord avec ce que vient de dire Christian. Sur le constat, totalement d'accord. Effectivement, mettre côte à côte les ultras de visiteurs et les ultras locaux, c'est pas très stratégique comme décision. Maintenant, dans les années 90, on avait des stades qui étaient cloisonnés, ultra cloisonnés, avec non seulement des filets, mais j'ai même le souvenir, au pire moment au Parc des Princes, avant le plan Le Prou, qu'on avait scindé des tribunes en trois parties, avec des grillages. Ça ressemblait à un zoo. Si c'est ça qu'on veut au stade, est-ce que la question c'est de savoir quelle population est dans le stade, comment elle se tient, ou est-ce qu'on fait des infrastructures avec des grillages pour faire en sorte que les animaux ne se battent pas entre eux ?
Mais qu'est-ce que vous mettez à la place des grillages pour que ça ne ressemble pas à un zoo ?
Faut pas confondre le problème et la solution.
Qu'est-ce que vous mettez à la place des grillages pour que ça ne ressemble pas à un zoo ?
Lorsque la France a obtenu l'organisation de l'Euro 2016, il y a eu une grande réflexion sur comment on refait les stades, ceux qu'on construit, ceux que l'on refait, pour essayer d'avoir des stades qui soient conviviaux, où on vienne.
Oui, mais manifestement, les supporters les rendent pas conviviaux. Mais
ce sont les auditeurs. La typologie des gens.
Mais peut-être faut-il simplement
parquer les animaux.
Non, l'autre solution, c'est pas parquer, c'est de ne pas mettre ensemble des adversaires, des supporters adverses.
Ça, c'est du bon sens. Mais en revanche, revenir à des filets, des grillages, moi je suis désolé, c'est
Fabrice.
Pas l'idée que j'ai du foot.
Fabrice, qui est préfet, non pas qui est.
Vous êtes policier. C'est intéressant.
Ouais. Non, qui est policier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pascal.
Qui habite la Savoie. Vous écoutez notre débat. Quel est votre sentiment?
Tout à fait. Bonjour Pascal Pro, bonjour Christian et Philippe.
Bonjour Fabrice.
Moi, je pense que sur le sujet, et à titre d'avis personnel, je pense qu'il faudrait une bonne table ronde entre les dirigeants politiques, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, la LFP et peut-être les magistrats pour les sanctions éventuellement à venir pour ces sauvageons. Ces sauvageons qui pourrissent un petit peu le milieu du football. Cette journée de championnat, on assiste à des caillassages, des envahissements de terrain, on arrache les sièges. Enfin, tout est forme de provocation entre eux. Et les réseaux sociaux, voilà, on ne va pas non plus les encourager parce que je pense aussi beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une loi, et ça a été très bien rappelé sur votre antenne entre 12h30 et 13h, et tout a été dit par vos interlocuteurs et correspondants qui sont intervenus à l'antenne. En 2016, une loi avait été adoptée par le Parlement, mais il suffit simplement de réviser cette loi, de pouvoir...
De la mettre en application, tout simplement.
Appliquer, et elle est déjà appliquée parce qu'il y a des correspondants dans chaque club, il y a un fichage qui est en place, et comme vous rappelez très bien, monsieur Pascal Pro, un ultra rentre comme un ultra, et ben, s'il y a un fichage, je pense que le fichage doit être appliqué dès l'entrée du stade. Comment vous pouvez faire rentrer des banderoles? Alors moi, je pense qu'il y a un problème de formation des stadiers, il y a un problème de fouille à l'entrée des stades, et je pense qu'il faudrait aussi donner un petit peu plus de compétences
à ce
personnel à l'entrée des stades, parce qu'une banderole, c'est pas un post-it. Si vous rendez une banderole, elle peut pas passer inaperçue.
Merci Fabrice de ce témoignage. Merci beaucoup. Et nous allons continuer quelques secondes encore avec Christian Olivier, avec Philippe Sansfourche. Est-ce qu'il faut interdire le déplacement des supporters et que dans un stade, il n'y ait finalement que des supporters d'une même équipe? Comme ça, ce serait plus simple. Ils ne pourraient pas se battre avec les supporters adverses. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On refait le match. Ce soir sur RTL.
Et c'est la voix de Jeanne Saccomano qui nous accompagne. Alors Fabrice parlait des sauvageons et des sanctions. Et Christian Olivier souhaitait réagir.
Sur deux choses, je suis étonné qu'on ne parle que de sauvageons. Car parmi ceux qui mettent le bazar et qui font le coup de poing, ce sont quand même plus que des sauvageons. Je voudrais quand même rappeler qu'à Lille, ou plutôt à Lens, mais la tribune lilloise était composée de certains supporters tout de noir vêtus affichant un groupe de musique d'extrême droite, et certains affichaient également le salut nazi. Il semble quand même que ce sont plus que des sauvageons.
C'est des milices.
À Nice, on ne peut pas dire que certains supporters niçois parmi les ultras ne soient pas orientés également. Ils le sont très fortement.
Quant de quel côté ils sont orientés?
Pardon?
De quel côté ils sont
extrême
orientés?
Extrême droite également. Quant aux sanctions, à l'aune justement de ce que le procureur de Nice a requis pour le supporter qui est descendu sur la pelouse et qui voulait se battre avec Dimitri Payet, le joueur de Marseille, vous vous en souvenez, hier, les réquisitions ont été maximales, c'est-à-dire 5 ans d'interdiction de stade et 6 mois de prison ferme. On va voir le résultat.
Ça va être intéressant. Bruno est là, qui est chauffeur de taxi. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour Pascal, bonjour messieurs.
Vous écoutez notre conversation. Est-ce qu'il faut supprimer le déplacement des supporters adverses?
Alors là, moi je vous réponds de manière très franche, certainement pas. Parce que moi, je ne veux absolument pas être privé d'aller voir un match de foot, parce qu'il y a quelques dizaines d'abrutis qui n'ont rien à faire d'ailleurs dans un stade. Il y a une dizaine d'abrutis qui font n'importe quoi. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore réussi à régler ce problème. Ça fait plus de 30 ans que ça existe, ce problème de violence de supporters, je mets des guillemets, pour moi ce sont pas des supporters. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et Zell, c'était le stade des Zell, c'était au milieu des années 80, je crois. Qu'est-ce qu'on attend, quoi, pour réagir et qu'il y ait de vraies sanctions? Là, la sanction qui est prise par rapport aux supporters niçois, je trouve qu'elle est entièrement méritée. Je me souviens de son interview, il a été interviewé quand même, c'est ça, faut savoir. Et il a dit, quand j'ai vu Payet Dimitri Payet lançait la bouteille, j'ai vu rouge. Mais il se prend pour qui, ce mec-là? Il n'est déjà pas à être dans un stade de foot. Et maintenant, il veut se venger parce que Payet, qui a reçu une bouteille dans la figure, il la rebalance dans les supporters. Mais où on va, quoi? Donc, ce mec-là, 5 ans d'interdiction de stade, c'est très bien. Et à la récidive, c'est interdiction de stade à vie. Quand on aura quelques dizaines de supporters qui se seront fait interdire de stade à vie, je peux vous dire que ça va en faire réfléchir d'autres, à condition qu'ils aient les moyens de le faire. Hein, parce qu'il y a certains qui sont bien décérébrés quand même. Moi, j'en ai un peu marre, j'en ai vraiment ras-le-bol d'avoir ce genre de personnage dans les stades. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les clubs, ils sont tout à fait responsables de la situation. Parce que depuis le temps que ça dure, ne me dites pas qu'ils n'ont pas pu prendre les mesures adéquates.
Ils sont très peu courageux. Parce que comme les dirigeants ne veulent pas se mettre en face des supporters qui peuvent leur pourrir la vie au quotidien, parce que c'est l'enfer, hein. Vous avez une minorité active ensuite, c'est l'enfer pour un club, hein. Ils sont là le matin, ils sont là l'après-midi, ils sont là le soir, c'est très très compliqué, ça s'appelle des minorités actives. Donc ils voient bien les effets de cela, donc ils ne sont pas très courageux. Philippe Sanfourche.
Oui, très clairement. Après... il ne faut pas être binaire dans ce dossier. Il ne faut pas dire que c'est la faute des clubs ou c'est juste la faute de la Ligue ou des autorités publiques. C'est globalement, il y a eu un relâchement.
C'est d'abord la faute de ces ultras-là.
Il y a un relâchement
global sur la
question. Mais non,
ça fait 20 ans que ça dure, Philippe. Pascal, c'est pas un relâchement, c'est pas nouveau.
C'est un relâchement global, alors qu'on a dit l'arsenal de sanctions.
Mais c'est pas nouveau, Valbuena. Souvenez-vous, Valbuena dans le stade Vélodrome qui était pendu... Son effigie était pendue. C'est pas nouveau, c'est sans arrêt depuis 25 ans.
Ça avait été réprimé et il y avait eu des sanctions envers les clubs.
Mais tu n'as pas de solution. Placement aléatoire de tous les supporters.
Mais non, ça c'est pas sérieux ça.
Pourquoi ?
Mais parce que vous sanctionnez, encore une fois.
Mais pourquoi on sanctionne
les familles,
des gens qui viennent,
les
mais
amis, pourquoi les gens normaux qui décident d'aller à un spectacle qui paye cher pour y aller et qui veulent participer à ce spectacle ensemble? Vous n'allez pas disséminer les gens
aux 4 ou 4 Philippe, à 3 ou 4.
C'est pas sérieux.
C'est fonctionnement. Mais c'est ce qui s'est passé au Parc des Princes.
C'est fonctionnement au Parc des Princes. Mais ça ne l'est plus du tout.
Mais ça l'a été.
Mais sur une période transitoire
de
où tout le monde a regretté le fait que le Parc des Princes était devenu un.
Mais personne n'a regretté.
Dans laquelle il n'y avait absolument pas de.
Mais ce que vous dites, je conteste ce que vous dites.
Il faut conserver.
Je conteste
football,
tout le monde. Je conteste
passion,
ce que vous dites.
Le plaisir, le spectacle. Et d'ailleurs, on voit bien la Ligue, elle est toujours coincée entre deux discours. C'est-à-dire que quelque part, elle condamne effectivement ces débordements, mais en même temps, dès qu'elle fait une campagne pour promouvoir le championnat, on voit des supporters, on voit même des fumigènes.
Ce qui est un peu gênant, c'est que on a l'impression, Philippe, à vous entendre, que les responsabilités sont diluées. La principale responsabilité, c'est la minorité agissante qui fait le coup de poing et qui met
le bazar. Ce sont les responsabilités individuelles des gens qui sortent des clous, mais en revanche, l'arsenal, on dit, oui, on n'a pas les moyens. Si, les moyens, ils existent. Il faut simplement les mettre en place. Les clubs, souvent, ne prennent pas les décisions de ficher et d'exclure les supporters parce qu'ils ont peur des représailles. Mais la Ligue peut le faire. La Ligue peut porter plainte
chaque lundi. Philippe Sanfourche, vous m'accusez d'être binaire. Et d'un autre côté, quand je dis c'était très bien le Parc des Princes pendant quelques années avec le placement aléatoire, que dites-vous ? Il y avait une ambiance de cathédrale et personne n'était satisfait. C'est faux. Il n'y avait pas d'ambiance de cathédrale. C'était très agréable. C'était une ambiance familiale.
Alors, la majorité n'était pas satisfaite.
C'était une ambiance familiale.
Vous étiez satisfaite, mais pas la majorité.
Et surtout, il y avait 50 000 personnes dans le stade.
Non, c'est faux. C'est une période où il y avait moins de spectateurs. Ça ne bousculait pas comme
la question, Richard. La question, c'était de savoir, faut-il interdire le déplacement des supporters visiteurs? Il faut geler le déplacement. Et effectivement, je ne sais plus qui le disait, je crois que c'est Cédric ou Fabrice. Oui. Il faut surtout ensuite se
réunir. Restez avec nous, parce que Jacques sera là, ça sera le dernier auditeur. Mais tous les jours, notre ami Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime, il arrive. Et j'attends à chaque fois le programme, parce que c'est toujours que des gens très sympathiques qui ont découpé en 12. Qui ont découpé en 12 leurs compagnons. Leurs enfants, c'est des choses horribles que vous nous racontez et en même temps on est fasciné.
Est-ce que vous avez un oreiller, Pascal ?
Un oreiller ?
Oui.
Bah oui, j'ai un oreiller.
Bon,
pourquoi je l'ai pas là ?
Un oreiller, ça sert à dormir.
Oui.
Ça peut servir aussi
à étouffer.
Voilà.
Donc
à
c'est l'étouffeur d'oreiller aujourd'hui.
Non,
c'est toujours des gens très particuliers.
Un oreiller dans une affaire est devenu la principale pièce à conviction. Sans cet oreiller, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de poursuite. C'est l'affaire Michel Niocel. C'est un diplomate qui a été abattu dans son sommeil. Mmh. Il était en poste en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était un rôdeur? Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était un suicide? Ou est-ce que c'était son épouse?
Un suicide, il ne se serait pas suicidé avec son oreiller quand même. C'est... suicide non, à l'oreiller, non, non, ça me paraît. Non, c'est pas simple.
L'arme, un tir d'arme à feu.
Ah bon?
L'arme était dans l'oreiller.
Ah, l'arme était. Ah,
peut-être. Et non, quelqu'un a appuyé sur la détente. Mais qui? On va le voir dans l'heure du crime.
Vous restez avec nous.
Le diplomate et l'oreiller.
Voilà. Le diplomate et l'oreiller. 13h58. Restez avec nous, bien sûr, Christian et Philippe. Le flash et nous conclurons sur le chapitre football.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute.
Il est 14h. Le flash vous est présenté par Agnès Bonfillon.
Un nouveau coup de pouce prévu dans le budget 2022. Cette fois, le Premier ministre Jean Castex annonce 240 millions d'euros pour mieux rémunérer les aides à domicile, qu'elles s'occupent de personnes âgées ou de personnes handicapées. Ça leur permettra, ces aides à domicile, de percevoir au moins 22 euros par heure partout en France. Actuellement, on le rappelle, les prises en charge diffèrent d'un département à l'autre et plus de la moitié des heures effectuées sont rémunérées en dessous de 22 euros. Autre annonce en faveur du grand âge. À l'instant, Jean Castex a pour objectif le recrutement de 10 000 soignants supplémentaires dans les EHPAD d'ici à 2025. La chasse aux faux passes sanitaires s'amplifie depuis la rentrée. 350 procédures, quelques 270 soignants suspectés de fraude et 36 000 assurés soupçonnés d'en avoir bénéficié. L'assurance maladie vient de faire un premier bilan. Ceux qui même prendront le train, et la durée sera de 5 heures entre Lyon et Paris, 3h45 entre Nantes et la capitale. À partir du printemps prochain, les trains Corail reprennent du service. Nouveau design comme les TGV Ouigo, mais sur des lignes classiques. Des prix low cost entre 10 et 30 euros maximum. Entre la Commission européenne et Apple, la pomme de discorde est en chargeur. Bruxelles veut que celui-ci soit universel pour les téléphones mobiles et autres petits appareils électroniques, mettant en avant les droits des consommateurs et l'environnement. Le géant américain s'y oppose, mais sera bien obligé de s'y plier si la directive qui vient d'être proposée est approuvée par les eurodéputés et les États membres. La météo demain. Ce sera encore du soleil, on profite car ça ne va pas durer. Déjà plus de grisailles et de bancs de brouillard le matin sur le nord-nord-ouest. Comme hier et aujourd'hui, le soleil finira toujours par revenir. Sauf sur les Pyrénées, là aussi toujours des risques d'averses. Les températures minimales vont remonter au nord. 7 à Nancy, 8 à Reims, 9 au Mans, 12 à Paris comme à Bordeaux. Les maximales seront globalement stationnaires et en hausse dans le sud-ouest. 19 à Cherbourg, 22 à Rouen, 23 à Paris, 24 à Strasbourg ou encore 28 à Nîmes. Je vous donne les résultats du tiercé quarté quintet plus qui vient de se terminer à Vincennes. Il fallait jouer le 6, le 12, le 7, le 5 et le 11. Vous savez tout, Pascal Praud.
Est-ce que vous allez dans les stades de football parfois?
Pas tant que ça, non.
Nous parlons de ce qui se passe parfois et de la violence à 14h02. Merci Agnès.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Jacques sera notre dernier auditeur sur ce sujet et notre question générique, c'est faut-il interdire les supporters de se déplacer, supporters adverses, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement dans les stades. Et puis parfois on parle de la violence à côté aussi, des ultras, qui est intrinsèque, me semble-t-il, à ces groupes de supporters. Jacques, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Votre sentiment sur notre conversation, et vous serez le dernier auditeur, donc vous aurez un travail de synthèse à faire.
Oui, alors concernant le déplacement des équipes adverses, oui, on peut toujours l'interdire, mais on n'empêchera jamais des gens à titre individuel de se déplacer. Et vous savez, tous ces tarifs qui se baladent, ils peuvent y aller en voiture. Donc on va peut-être pénaliser le père et son fils qui font le déplacement. Mais moi, ce qui me gêne, et je suis 100% d'accord avec vous, moi j'en ai marre de cette violence. Depuis le début de saison, ça n'arrête pas. Ça va faire la quatrième ou cinquième fois qu'on voit ça à la télé, dans les journaux télévisés. Il y en a vraiment ras-le-bol, mais ras-le-bol. On a tous les moyens pour interdire. Moi, je suis très content de la décision du tribunal qui a été prise. Mais des décisions comme ça, il en faudrait des centaines. Des centaines. On a tous les moyens pour éradiquer. On peut prendre en photo, on peut ficher, on peut interdire. Ce qu'il y a, c'est que la Ligue ne prend pas ses décisions, les pouvoirs publics ne prennent pas de décisions. Ce qu'il y a, c'est que personne ne prend de décision. Un jour, on aura un mort. Il faut le dire, ça va arriver. Quand
merci,
on voit des spectateurs agresser des joueurs, insulter des joueurs, descendre des tribunes sur le terrain, aller menacer des dirigeants. Moi, je vais vous dire, Pascal, je suis comme vous. Moi, j'étais dans des dizaines de stades. Des dizaines de stades. Le seul stade où j'ai eu peur un jour, c'est dans un stade de foot.
Ben merci Jacques. Moi, je me suis un peu éloigné du football, mais c'est vrai que je reconnais plus le football que j'ai aimé. Je peux pas vous dire autre chose. Dans les années 70-80, il y avait quelque chose de convivial. Je n'aime pas, au fond, ces groupes de supporters ultra-violents. Philippe Sanfourche, l'avenir ?
L'avenir, c'est une concertation sur le plan politique. Je pense que là, il faut sortir des simples commissions de discipline, d'aller taper sur un événement. Mmh. Là, il faut prendre le problème globalement. Et même si moi, à la différence de vous, j'ai une vraie sensibilité pour ces mouvements qui, pour moi, apportent de la couleur et de la passion, il est clair que là, on a franchi une ligne jaune et qu'il faut des sanctions fortes, collectives, pour un retour au calme.
Christian ?
L'avenir, avant les sanctions fortes, il ne faut pas interdire définitivement le déplacement des supporters. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer, c'est geler actuellement les déplacements des supporters car il y a des matchs sulfureux qui sont à venir. Le week-end prochain, j'ai peur pour Marseille-Lens, il y a également Saint-Etienne-Nice, dans 15 jours, il y a Saint-Etienne-Lyon, et le jour, vraiment, je l'ai dit à 12h30, ça a choqué, paraît-il, mais le jour où il y aura un mort, on ne se posera pas la question de savoir si les supporters visiteurs doivent se déplacer ou pas. Ce ne sont pas eux, forcément, qui sont les responsables, mais ça attire actuellement, malheureusement, la haine, donc que les supporters locaux fassent uniquement la fête entre eux. Et on l'espère, et on espère que ça s'arrangera comme cela. Et il faudra trouver d'autres solutions ensuite pour effectivement extraire minorités agissantes, et bien ceux qui sont les plus violents.
Merci Christian. On refait le match samedi, évidemment.
Absolument.
À 18h30. 18h30, 20h. Donc vous aurez boulot. Merci.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et donc Olivier, notre ami qui gère la page Facebook désormais depuis le 23 août.
Depuis le 23 août déjà, et oui, parce que...
Eh oui. Ça fait un mois.
Ça fait déjà un mois.
Mais oui, parce qu'on est le 23 septembre, Miracle.
Exactement.
Bruno, c'est passé vite.
Eh oui, c'est passé très vite. Parce que
incroyable.
Bruno nous écrit à l'instant sur la page Facebook. Une fois pour toutes, arrêtons de dire que ce sont des supporters. Pour Grégory, il faut absolument que les clubs fassent du ménage dans leurs tribunes. Et on termine avec Elisabeth qui nous dit si on interdit les déplacements des supporters, on s'attaque à l'âme du football.
On va parler de Dieu. On va parler de Dieu. J'ai trouvé que c'était presque la nouvelle la plus intéressante du jour. Figurez-vous que aujourd'hui, les Français ne croient plus en Dieu. N'importe quel Dieu, j'ai envie de dire. Et c'est la première fois où le nombre de non-croyants est majoritaire dans un pays. C'est très important parce que si on ne croit plus en Dieu, ça veut dire que peut-être qu'on croit davantage, pourquoi pas à l'hygiénisme, pourquoi pas à la technique, à la technologie, forcément. Donc c'est un rapport au monde qui peut être tout à fait différent. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Aujourd'hui sur RTL, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne remportent le livre d'Éric Jean-Jean, Goldman, une vie en chanson aux éditions Hugo. Le livre sera dédicacé par Éric Jean-Jean. Il est sorti aujourd'hui. Il célèbre ses 70 ans en octobre, Jean-Jacques Goldman, et ses 40 ans de carrière en septembre 2021. 70 ans Goldman, c'est terrible de penser qu'il a 70 ans. C'est le héros de notre jeunesse. Dieu. Et Dieu dans tout ça, comme disait Jacques Chancel. Faut-il croire en Dieu ou pas? En tout cas, plus de 50% des Français ne croient plus en un Dieu. C'est la première fois qu'il y a une majorité de non-croyants en France. Bonjour, Janvier, c'est votre
Bonjour,
prénom.
Pascal.
Et je me souviens vous avoir... parce qu'évidemment, on n'oublie pas votre prénom, Janvier.
Oui, je sais, on me le dit souvent.
Donc forcément, je sais que je vous ai eu à l'antenne parce que vous êtes le seul Janvier que je connais. Qu'est-ce que ça vous inspire que plus de la moitié des Français ne soient plus croyants?
Bah, honnêtement, c'est sûr que nous, en tant que jeunes chrétiens, c'est vrai que ça peut faire mal de voir, surtout en France, un pays qui a quand même connu pas mal de moments forts liée à la spiritualité, au catholicisme, c'est vrai que ça fait mal. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer ça, notamment le confort. Hein, aujourd'hui, on vit dans une société où la société française est assez confortable. Il y a la surconsommation aussi, qui fait que on a le cœur occupé à de multiples occupations et aussi à d'autres croyances, hein, des croyances plus new age, si je puis dire, telles que l'horoscope, etc. Donc, on va délaisser la religion traditionnelle pour d'autres formes de croyances. En plus de ça, il y a aussi un anticléricalisme en France qui est assez fort. Et donc, les gens ne rejettent pas forcément Dieu. Attention, les gens rejettent le véhicule qui a véhiculé Dieu au travers de l'histoire, donc qui est l'Église catholique, à cause de différents torts, hein, ou à cause d'un anticléricalisme et de différents torts. Mais je pense personnellement que les gens ne rejettent pas forcément Dieu, mais tout simplement le moyen qui a véhiculé Dieu dans l'histoire. Je pense que c'est ça.
Moi, j'ai l'impression aussi que plus les temps avancent et plus les gens s'informent, peuvent réfléchir et peut-être se raccrochent-ils moins à ce qu'ils pensent, à un monde irrationnel. Certains disent d'ailleurs un monde magique et qu'ils ont besoin de davantage rationalité et que la foi, par définition, j'ai envie de dire, elle n'est pas rationnelle, Janvier.
Oui, c'est sûr que la foi, par définition, elle n'est pas rationnelle. Après, il faut se dire, attention, parce que nous, on le constate au niveau avec notre association FIDE, au sein de la jeunesse, au sein d'une certaine jeunesse, notamment en banlieue parisienne, ou même sur Paris même, on voit tout de même qu'il y a un regain de spiritualité où beaucoup de personnes...
Vous avez raison, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a un regain, c'est ce que disait Amandine Bégaud tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une recherche sur soi-même, ce que vous appeliez tout à l'heure des religions supplétives. Je ne crois pas que c'était vous d'ailleurs qui parliez de cela, mais en tout cas, il y a une recherche personnelle, une volonté de se connaître peut-être mieux, une volonté de réfléchir sur soi, sur le sens de la vie, et en même temps, on ne croit plus à un Dieu révélé.
C'est ça, parce qu'il y a une forme de déracinement. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont tout de même chercher à s'enraciner dans quelque chose. Et ça, c'est tout de même important pour savoir où est-ce qu'on va. Il faut aussi savoir d'où est-ce qu'on vient. Et ce d'où est-ce qu'on vient, c'est peut-être aussi lié à cette recherche, à cette soif spirituelle qui est peut-être plus grandissante chez une certaine jeunesse et qui s'est peut-être perdue pour les personnes.
Vous êtes catholique vous-même ?
Oui.
Je posais tout à l'heure la question à un prêtre. Après la mort, pour vous, ça prend quelle forme ?
Après la mort, pour nous, c'est la vie. C'est tout simplement.
Oui, mais de quelle manière vous l'imaginez ? Est-ce que vous arrivez à le conceptualiser, à l'imaginer ?
À le conceptualiser, non, pas forcément. Je pense que on peut toujours s'imaginer. Hein. On s'imagine toujours que on est au ciel avec le Christ en compagnie de tous les anges et de tous les saints, donc la communion des saints, dans un moment fraternel et éternel. Mais après, c'est dur de se conceptualiser, de quelle manière ça va prendre forme.
Merci, Janvier. On va être avec Abdelatif dans une seconde. Merci beaucoup. Et c'est un sujet qui est absolument passionnant. Dieu est mort, disait Nietzsche. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les Français ne croient plus en Dieu. Pour la première fois, le nombre de non-croyants est majoritaire dans notre pays. Nous sommes avec Abdelatif. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Nous étions tout à l'heure avec Janvier qui est catholique. Est-ce que vous-même avez une religion, Abdelatif ?
Je suis musulman, Pascal.
Donc vous croyez en un Dieu révélé ?
Oui, je crois en Dieu révélé. Je crois en Dieu qui est en moi et que chacun de nous sent à sa manière. Et si la religion, on prend son recul, c'est-à-dire la croyance, croire en Dieu recule, moi je l'explique par quatre choses. La première des choses, c'est que nous sommes dans une société individualiste. On est chacun dans sa bulle. Or, une religion, pour avancer, pour exister, a besoin du groupe. Une religion, on ne la fait pas tout seul. C'est le groupe qui est le ciment de la religion. On est dans une société où le matériel a primé sur le reste. Il n'y a plus rien que le matériel. Il n'y a plus rien, on veut de tout et tout de suite. Et les technologies actuelles nous permettent de vivre une vie très agréable, très facile. Et donc, on ne pense plus ni à l'au-delà, ni à ce qui va se passer demain. Et enfin, je pense, du moins le troisième point, c'est qu'il y a quelque chose de très important dans les religions, c'est la transmission. Or, il n'y a plus de transmission. Dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui, on ne leur apprend plus le don de soi au nom de la religion, on ne leur apprend plus la religion, on leur apprend à réussir dans la vie. C'est très bien aussi, il faut le faire. Mais une religion, traditionnellement, elle s'inscrit dans une lignée de croyance, de croyante, et il faut transmettre cet enseignement. Et si personne ne le transmet plus, la religion, elle s'éteint. Il n'y a plus rien. Et en fait, je pense que dans... Juste, la dernière chose, c'est que je pense que dans les 51% de Français qui ne sont plus croyants, moi, je pense que je peux relativiser un petit peu. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont un doute quant à l'existence de Dieu, quant à l'existence d'une puissance, d'une superpuissance qui a créé l'univers, donc qui a créé l'homme.
Ah, vous pensez que Dieu a créé l'univers ?
Bah écoutez, moi, en tant que croyant, oui, c'est ce que je crois. Donc, ça peut vous faire sourire.
Non, c'est pas que ça peut me faire sourire, c'est que vous vous heurtez de plein fouet à la science.
Bah, écoutez, je vais vous dire une chose.
C'est-à-dire qu'on pourrait considérer.
C'est un Big Bang, c'est ça ? C'est bien ça, l'univers a été créé par un Big Bang.
Oui.
Ouais. Bah, écoutez, prenez 3, 4, 5 millions de billes, jetez-les 20 000 fois et vous n'aurez jamais la même disposition de billes par terre. Je ne pense pas que c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans.
Non, mais vous pouvez considérer que Dieu est à l'origine du Big Bang, si vous êtes...
Oui, bah je peux considérer que Dieu... De toute façon, c'est
Mais par exemple, je sais qu'il existe de temps en temps des créationnistes d'imaginer que nous sommes apparus sur la Terre telle que nous sommes aujourd'hui. Bah, ça, c'est quand même très difficile à soutenir parce que la science est passée par là.
Quelle science, Darwin ?
Bah, quelle science, cher. Ne me dites pas, Abdelatif, que vous pensez qu'on était comme cela il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, il y a 10 000 ans, il y a 50 000 ans.
Non,
nous descendons a priori du singe.
Je ne défends jamais la religion par la science, mais j'essaie de trouver dans la religion ce qui est scientifique.
Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes d'accord pour dire que nous descendons du singe?
Moi, je pense pas. Moi, vous pouvez.
Pas penser ou pas. C'est quoi, je veux pas entrer là-dedans parce que je veux pas en même temps vous heurter. Mais
ah
vous
non,
pensez
non,
quoi
mais je veux dire une chose. Vous ne pouvez pas me heurter. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a cette liberté de croire ou ne pas croire. Et c'est
mais,
ce qui agresse.
Oui, mais là, on n'est plus dans le croire ou pas croire. Si vous pensez que par exemple l'homme ne descend pas du singe, Abdelatif.
Non, moi, en tant que croyant, je ne pense pas que l'homme descende du singe.
Mais alors, vous pensez quoi de notre évolution ?
Ben, je pense que l'homme est descendu de c'est une création divine. Alors là, c'est vrai que si on rentre là-dedans. Ben oui, c'est une création divine. Si je pense que l'homme est descendu du singe et que c'est Dieu qui venait après s'immiscer dans les affaires du singe pour le transformer en homme, ça me fait rire. Je ne suis plus croyant. Je ne vois pas où est-ce qu'elle est la place de Dieu dans tout ça. Vous savez, Pascal, croire ou pas croire, c'est vraiment le plus difficile, c'est de croire. Je vais vous dire une chose, le plus difficile, c'est de croire.
Mais là, c'est passionnant, parce que les gens qui vous écoutent, moi, je suis passionné par ce que vous me dites, Abdelatif.
Bah, bien sûr, ce qui est difficile, c'est de croire.
Pourquoi? Non, mais je suis passionné que vous me disiez ce que vous m'avez dit. Je trouve ça passionnant.
Écoutez, vous sortez du singe, vous pensez que vous venez du singe.
Ah ben je pense qu'effectivement nous descendons tel ce qu'on m'a appris à l'école, mais je n'ai pas été vérifié.
Ça, et tout à l'heure, je vous écoute, vous dites que vous allez à l'église tous les dimanches soir.
Oui.
Bien précisé le soir.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que Dieu, auquel vous croyez, puisque vous allez à l'église, à moins que...
C'est plus complexe que ça, mais on ne va pas entrer dans... On peut penser...
Il a intervenu quand dans cette création
qu'il existe... quelque chose qui nous dépasse, que je ne saurais pas dire, que ma raison à laquelle ma raison n'a pas accès, mais que cette puissance-là existe au-delà de nos vies. Mais on ne va pas entrer dans le détail si vous le voulez maintenant. Une chose peut nous rapprocher, c'est que la bienveillance, l'amour, la gentillesse sont peut-être des choses sur lesquelles nous pouvons nous rejoindre. Et que être chrétien, être musulman, c'est aussi essayer d'être gentil avec les autres, d'être sympa, d'être, comment dire, en empathie, d'être à l'écoute, d'être généreux, que sais-je. Merci Abdelatif, merci Janvier. Désolé pour Pascal, parce qu'on est très en retard. Il est 14h23 de Quimper, mais on pourra en parler peut-être demain. Et pour le moment, c'est notre ami Laurent Tessier qui... moi, je crois en Laurent Tessier et je crois en son... En son débrief maintenant. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission
par Laurent Tessier.
Êtes-vous choqué par la une et les photos d'Éric Zemmour dans Paris Match? La couverture montre le polémiste en maillot de bain avec sa conseillère sur une plage dans le Var. Rien de choquant pour Thierry.
Que la photo sorte sur les, dans les journaux, il n'y a rien de choquant et rien d'alarmiste et rien de surprenant. Vous-même, avec votre propre téléphone, vous auriez pu faire exactement la même photo.
Et je ne sais pas vous, mais ces photos donnent envie d'aller se baigner. En tout cas, c'est l'occasion d'en parler.
Vous allez sur les plages ce week-end?
Non, j'y étais le week-end dernier, il pleuvait bien.
Ah, vous allez sur les plages quand il pleut?
En moto en plus. Mais
en moto, vous allez sur les plages en moto quand il pleut?
Mais c'était très bien.
Non, j'aimerais pas être votre voisin de serviette parce que ça peut être bon.
Il portait des culottes, des bottes de moto.
Mais ce que l'on aime dans l'émission, c'est votre second degré au standard.
Vous n'êtes pas fait prendre en photo?
Je sais même pas si j'apparaîtrais derrière la revue municipale.
Sinon, une envie, Pascal, dans les prochains jours?
Si j'étais Zemmour, je serais très content qu'il me tape dessus, parce qu'en fait, c'est contre-productif.
Ben, je vous en prie, mais justement, Éric Zemmour sera-t-il candidat à l'élection présidentielle?
Je le répète à chaque fois, je suis pas sûr qu'il se présente à la candidature. Hein. Vraiment, je n'en suis pas sûr.
Bon, on n'est pas plus avancé, et c'est vrai qu'en ce moment, le discours du polémiste, c'est un peu ça.
Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix.
D'accord,
mais mon choix est fait.
Ah, donc vous avez choisi?
Oui. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix.
Bon, on ne s'y retrouve pas. Alors aujourd'hui, RTL Midi est en mode Top Chef avec le plat du jour.
Le kamasala. Pascal Praud nous dit tout de suite les ingrédients du kamasala. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors le kamasala, vous connaissiez?
Je ne connaissais pas le kamasala.
Alors de quoi parle-t-on alors aujourd'hui si on ne parle pas de kamasala?
Et puis une question essentielle. Croyez-vous en Dieu? 51% des Français n'y croient pas selon un sondage IFOP, un chiffre en augmentation. Et vous avez interrogé Pascal, le père Pierre Amard.
Mais c'est quoi croire en Dieu? C'est croire en quelqu'un qui nous attendrait dans un espace qui ressemble à un espace terrestre où il y aurait le paradis, le purgatoire, l'enfant, quelqu'un avec une grande barbe qui nous parlerait? C'est quoi? Non mais ça là, m'intéresse
vous
toujours.
Vous confondez avec le père Noël, Pascal Praud.
Oui,
là,
mais
vous
juste,
confondez avec le père Noël.
Mais j'entends bien.
Ouais, c'est une bonne définition. Un dernier mot, père Pierre Amard, pour nous inciter à croire en Dieu.
La mort n'aura pas le dernier mot. On va se retrouver, on va se revoir. Mais j'ai beau le dire avec conviction.
Il y a des gens que je n'ai pas envie de retrouver, si vous me permettez.
Ça, on veut bien vous croire. Nouvelle rubrique dans l'émission, les questions essentielles de Jean-Alphonse Richard.
Est-ce que vous avez un oreiller, Pascal?
Un oreiller?
Oui.
Bah, oui, j'ai un oreiller. Bon, pourquoi je n'ai pas là?
Un oreiller, ça sert à dormir.
Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard pour l'intervention. Autre sujet, faut-il interdire les déplacements des ultras? C'était un autre thème dans l'émission.
Ouh, un tel match!
Oui, une réflexion, une comparaison peut-être, Pascal.
Mais il n'y a pas de problème quand je vais voir le concert de Michel Sardou, de Véronique Sanson, les gens se battent pas.
Mais oui, allez, le débrief pour aujourd'hui se terminer. On se quitte alors avec l'une des plus grandes chansons de Michel Sardou.
Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara.
Allez, tous debout.
Dit, c'est dit, je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit. Marine a dit oui.
Monsieur Alphonse.
C'est une chanson qui réveille. Hein.
Bah bien sûr, Jean-Alphonse Richard, vous m'avez intrigué avec cette affaire d'oreiller.
Ben voilà, l'oreiller.
L'oreiller, le diplomate.
L'oreiller et le diplomate, c'est le thème de l'heure du crime aujourd'hui. Comment un oreiller se révèle comme une principale pièce à conviction dans un dossier criminel? Tout tourne autour de ce fameux oreiller qui a servi à tenir une arme à un moment donné. Qui a pressé sur la détente? Eh bien, c'est notre enquête aujourd'hui.
Est-ce que c'est une histoire à dormir debout?
On pourrait le dire comme ça, mais je connais une personne qui dort en prison.
Merci, à demain et avec vous dans une
minute. À tout de suite.